Nous connaissons tous cet événement qui nous est rapporté dans l'évangile de Jean, où l'évangéliste nous rapporte cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Une femme dont la vie était tout à fait désorganisée, les connaissances religieuses très rudimentaires. Mais l'évangéliste va nous raconter cette rencontre avec cette femme et nous montrer que cette rencontre va produire des fruits dans la ville de Sichem. Mais Jésus va partir, il va aller plus loin. Il faudra attendre quelques années et lire plusieurs chapitres dans le Nouveau Testament pour pouvoir découvrir les fruits de cette rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine. Entre-temps, les choses vont aller mal pour l'Église naissante. Étienne, un diacre, va rendre son témoignage et à cause de son témoignage, il va être mis à mort. Vous connaissez cette histoire. Et à partir de là, une période de persécution va frapper l'Église. Il nous est dit que Saul de Tarse frappait l'Église de toutes sortes de maux. Il emprisonnait les croyants. Il ravageait les églises, disait-il. À cause de cela, les croyants se sont tous dispersés. Sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Et pour eux, c'était véritablement une catastrophe. Une période difficile et dangereuse. En réalité, rapidement dans le texte biblique, nous découvrons que cette dispersion des disciples n'était pas si dramatique que ça. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, il nous est dit ceci au verset 4. « Tous ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Vous avez sans doute, vous aussi, lu quelque part un jour que nous aurons à accomplir dans des temps difficiles ce que nous n'aurons pas accompli dans des temps faciles. Déjà à cette époque-là, cette parole était vraie pour eux. Ils ont dû accomplir dans des temps difficiles sous la persécution ce qu'ils étaient invités déjà à accomplir de la part du Seigneur. Et cette dispersion des disciples va être bénéfique en particulier aussi pour la Samarie. La suite du texte nous raconte que Philippe va aller à la ville de Samarie, il va prêcher. Et les Samaritains vont être très réceptifs à la parole de Dieu. Ils vont être impressionnés par les miracles que le Seigneur accomplit par Philippe, ils vont être impressionnés par sa prédication, ils vont recevoir l'Évangile. En réalité, le témoignage de cette femme de Sichem, qui a rejoint tous les habitants de Sichem, s'est répandu dans toute la Samarie, et voilà les résultats. Les fruits sont maintenant mûrs dans cette moisson de gens qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Et au milieu de cette grande campagne d'évangélisation qui a lieu à Samarie, quelque chose de particulier se produit. Les apôtres se rendent compte qu'il y a en même temps des semailles et en même temps de la récolte. Et la manière que Dieu utilise pour produire et l'un et l'autre est tout à fait inattendue. C'est d'ailleurs souvent comme ça. Quand on accepte d'être ouvrier avec Dieu, il faut être prêt à tout. Certains d'entre vous, d'ailleurs, pourraient en témoigner. Quand on veut être ouvrier avec Dieu, il faut être prêt à tout. En plein milieu de cette campagne d'évangélisation dans la ville de Samarie, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi. » Remarquez que Philippe était un diacre. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, il nous est raconté que le travail des apôtres devenait vaste, trop important pour eux. Et il a été décidé de choisir 7 hommes pour les aider dans leur tâche. Mais pas n'importe qui. Dans Actes, chapitre 6, au verset 3, il nous est dit « Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. » On ne va pas choisir n'importe qui, on va prendre des hommes remplis de l'Esprit Saint, des hommes sages, des hommes chez qui l'on voit les fruits de l'Esprit. Philippe fait partie de ces 7 hommes-là. Et tout d'un coup, au milieu de l'activité qu'il y a à Samarie, il nous est dit dans Actes chapitre 8, verset 26, un ange du Seigneur s'adresse à lui et lui dit « Lève-toi ». C'est comme si l'ange venait interrompre ce travail qui est accompli par Philippe et par les autres. Remarquez bien, nous serons toujours étonnés par les outils que le Seigneur utilise pour accomplir son œuvre. Pour nous, il nous faut des personnages importants, qualifiés. À notre avis, il faut des gens qui aient une éducation solide, qui aient des talents évidents. Dieu nous prend toujours par surprise en utilisant des ouvriers que nous n'aurions jamais choisis nous-mêmes. Et remarquez, un ange du Seigneur vient voir Philippe, comme s'il voulait véritablement lui confier une mission précise, spécifique, spécialement taillée pour lui. Il aurait pu aller parler aux apôtres, il aurait pu parler à ces gens qui étaient avec Jésus. Non, l'ange va aller voir ce diacre qui s'est donné comme mission d'être collaborateur avec Dieu, d'être ouvrier avec Dieu. Dans le livre « Tragédie des siècles », je lis ce passage à la page 658. « Quand le temps sera venu où le message du troisième ange devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Lorsqu'il faudra, nous dit ce texte, que le message biblique soit annoncé avec force, Dieu ne va pas choisir les géants de cette planète. Il ne va pas choisir les stars de l'Église. Il va prendre des instruments humbles, mais qui seront consacrés à lui. C'est une chose très dangereuse de dire à Dieu, « Seigneur, je sais faire. » Parce que ce sont ces gens-là que le Seigneur met de côté. Mais c'est une chose tout aussi dangereuse de dire, « Seigneur, je ne sais pas faire. » Parce que ce sont ces gens-là que Dieu choisit pour travailler. Le Seigneur choisit des instruments humbles, mais consacrés à lui. Et vous ne savez pas, ce que peut-être le Seigneur va vous demander un jour, parce qu'il y aura une mission spécialement taillée pour vous à accomplir. Le texte du livre des Actes continue, on est dans le livre des Actes au chapitre 8, au verset 26. L'ange lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe est en pleine campagne d'évangélisation, il est là dans la ville de Samarie, il y a toute une agitation, il y a comme une église qui se constitue, et l'ange lui dit, « Philippe, va au désert, sur le chemin où il n'y a personne. » Et je peux facilement imaginer les objections qui sont venues à l'esprit de Philippe. Mais Seigneur, on est en ville, le travail est là, les gens sont là, et tu me demandes d'aller là où il n'y a personne? Et puis, Seigneur, ce chemin désert, c'est un chemin dangereux, personne ne va seul là. Et il n'est pas difficile d'imaginer toutes les objections que Philippe a eues lorsque l'ange vient et lui dit, « Philippe, j'ai besoin de toi là-bas. » Ce que l'ange lui demande ne fait pas de sens. Il faut interrompre cette grande campagne d'évangélisation et aller dans le désert. Vous n'avez pas l'impression parfois que le Seigneur vous demande d'aller travailler dans le désert? Remarquez, Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et vous avez peut-être l'impression vous aussi de prêcher dans le désert par le témoignage que vous donnez autour de vous et qui ne semble jamais être écouté. Cependant, il vaut mieux être dans le désert selon l'ordre de Dieu que d'être dans la foule selon notre propre désir. Quand on y réfléchit, dans le désert, c'est là que Moïse a rencontré Dieu. Quand on y réfléchit, c'est dans le désert que Élie a rencontré Dieu. Quand on y réfléchit, c'est dans le désert que Jésus a développé avec son Père un contact unique, spécial, avant de démarrer son ministère. On dirait qu'il se passe dans le désert des choses extraordinaires. On dirait que dans le désert, la voix de Dieu est plus facile à entendre que là où les hommes parlent et font beaucoup de bruit. Et l'ange dit à Philippe, va là-bas sur le chemin qui est désert. Je trouve dans cette histoire de Philippe et de l'eunuque qui est ici rapportée dans le livre des Actes au chapitre 8, de nombreux éléments qui rapprochent cette histoire de notre temps et de notre situation. De nombreux éléments qui font que finalement, nous pourrions être dans les sandales de Philippe. Quand on y pense, Dieu semble aimer les choses compliquées. Vous avez remarqué, Dieu envoie un ange auprès de Philippe qui doit lui dire « va à tel endroit ». Et dans la suite du texte, il nous est dit que Philippe est sur ce chemin et le Saint-Esprit doit lui dire « tu vois ce char qui passe ? Cours derrière lui, va voir, va près de ce char ». Et puis après, l'Esprit devra transporter Philippe ailleurs. On a une situation ici qui ressemble à ce que l'on a dans le livre des Actes au chapitre 10. Vous vous souvenez de cette histoire avec Pierre et Corneille ? Dieu donne une vision à Pierre. Dieu donne une vision à Corneille. Corneille envoie des messagers. Les messagers vont chercher Pierre. Pierre va prêcher. Est-ce que Dieu n'aurait pas eu meilleur temps d'envoyer lui-même un ange pour faire le travail ? Et vous vous souvenez dans le livre des Actes au chapitre 10, comment Pierre fait le travail ? Il arrive dans cette salle qui est pleine de gens qui veulent entendre l'Évangile et il commence, belle introduction, par leur dire « Vous voulez quoi au fait, vous autres ? » Est-ce que ça ne serait pas plus simple que Dieu envoie son ange, on est sûr que lui ferait le travail comme il faut au moins, et que les résultats seraient garantis ? Eh bien non. Dieu préfère prendre le grand détour, peut-être compliqué parfois, de faire comprendre aux hommes ce qu'il attend de leur part, de leur indiquer la route à suivre, de les mettre sur les chemins qu'il a prévus pour eux. Mais Dieu veut que ce soit les hommes qui fassent le travail. Dieu a choisi depuis longtemps une stratégie qu'il n'est pas prêt d'abandonner. En réalité, cette stratégie, il va la garder jusqu'à la fin. Et cette stratégie, notez bien, elle trouve son point culminant dans Jésus. La parole incarnée, la parole qui est devenue chair et qui a habité parmi nous. C'est la même méthode, cette méthode de toujours, cette méthode de Dieu. Dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 96, se trouve cette phrase. L'ange envoyé à Philippe aurait pu accomplir lui-même l'œuvre du Christ chez l'Éthiopien. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu procède. Sa volonté, c'est que les hommes collaborent au salut de leurs semblables. Nous ne saurons jamais tout ce que Dieu a fait pour mettre sur notre chemin ceux que nous rencontrons. Nous ne saurons jamais les 1000 détours par lesquels Dieu est passé pour amener devant nous la personne à qui nous rendons témoignage. Nous n'avons aucune idée du travail que les anges accomplissent de la part du Seigneur pour pouvoir préparer notre tâche. En fait, nous avons la tâche facile et nous ne savons pas tout ce que Dieu fait en arrière de la scène pour présenter devant nous des gens qui sont prêts parfois à entendre sa parole. Un peu plus loin, dans le même livre, à la même page, il y a cette parole que je trouve extrêmement encourageante. Aujourd'hui, les anges conduiront aussi les pas des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit sanctifiera leurs paroles, purifiera et ennoblira leur cœur. Autrement dit, ce que Dieu a fait avec Philippe, ce que Dieu a fait avec Pierre dans le livre des Actes, il le fait encore aujourd'hui de la même manière. Il n'a peut-être pas besoin de nous montrer les anges parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous avons lu les Écritures et nous savons que le Seigneur agit de cette manière-là. Aujourd'hui encore, les anges travaillent avec ceux qui veulent être ouvriers avec Dieu. Leur tâche, aujourd'hui encore, est de préparer la nôtre. Alors je me pose la question, est-ce que nous sommes prêts, nous, à aller là où les anges ont préparé une tâche pour nous ? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser conduire de cette manière-là ? Or, nous pouvons avoir l'impression qu'il y a peu de gens autour de nous qui veulent véritablement entendre la parole de Dieu. Combien d'entre nous ont déjà vécu cette expérience d'être rabroués, d'entendre les autres se moquer de nous, parce que nous présentons un témoignage de la part de Jésus, notre Sauveur. Mais nous n'avons aucune idée des oreilles qui pendent à droite et à gauche et qui reçoivent ce témoignage. Et puis Philippe, nous dit le texte, trouve sur ce chemin désert un char où se trouve un officier de la reine d'Éthiopie. Cet homme est un homme pieux. Il revient de Jérusalem. Il rentre de Jérusalem pour retourner chez lui. Et il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et le texte nous dit quel texte il lisait. Ce passage où il est dit « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ?» Ce texte, cet homme ne le comprend pas. Mais remarquez, quel texte? Un texte qui parle de Jésus. Alors on comprend que l'ange lui ait dit « Va sur ce chemin, va donc lui expliquer de quoi il est question dans ce texte qu'il est en train de lire, parce qu'arrivé à ce bout du chemin, c'est ce texte-là qu'il est en train de lire. » Cet homme va lui poser la question qu'on aimerait entendre, de qui est-il question dans ce texte? De qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Voudrais-tu m'expliquer? Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vient à vous, qui vous dit « Regarde ce texte des Écritures, je ne le comprends pas, tu pourrais me l'expliquer ?» Vous ne sentez pas en vous cette joie, mais Seigneur, mais que ne m'a-t-on posé cette question 100 fois au lieu d'une? Et Philippe lui explique, mais regarde, il est ici question de celui qu'on appelle Jésus. Et il rend témoignage de Jésus. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est allé de l'autre côté de la mer de Galilée avec ses disciples dans un endroit appelé Gérasa, il a rencontré là un démoniaque. Les disciples se sont sauvés, se sont cachés derrière la barque. Et Jésus est allé au-devant de lui et il l'a libéré de cette légion de démons qu'il habitait. Et cet homme, un moment après, se trouve assis au pied de Jésus dans son bon sens, habillé, ayant retrouvé tout son esprit. Et lorsque Jésus s'en va, cet homme lui demande « Seigneur, permets que j'aille avec toi. » Et Jésus lui dit « Non, reste ici et raconte ce que Dieu a fait pour toi. » Lorsque plus tard, Jésus ira dans cet endroit, un grand nombre de gens seront prêts à le recevoir, alors que ce jour-là, il lui demande de partir. Mais Jésus a refusé que cet homme le suive. Il lui a dit « Reste chez toi, mais dis ce que Dieu a fait pour toi. » Philippe ici est en train de parler de Jésus. Nous oublions parfois que la prédication de l'Évangile, c'est la prédication de Jésus. C'est lui qui convertit. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui donne la joie du salut. La prédication de l'Évangile, c'est d'abord la prédication d'une personne. C'est d'abord annoncer que Jésus est vivant. D'ailleurs, vous le savez très bien, dire aujourd'hui à quelqu'un « Jésus est une personne réelle, c'est une personne vivante, qui te voit, qui t'accompagne et qui te sauve. » Rien qu'une phrase comme ça est déjà pour beaucoup de nos contemporains quelque chose d'absolument inimaginable, d'inconcevable. Rien que ça est déjà une nouvelle extraordinaire. Annoncer Jésus, proclamer Jésus. L'Évangile n'est pas d'abord une doctrine, l'Évangile c'est d'abord une personne. Nous sommes invités de la même manière à dire ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que vous savez encore ce que Jésus a fait pour vous? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes prêt à dire ce que Jésus a fait pour vous? Peut-être que vous êtes prêt à donner une étude biblique. Non, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes prêt de dire ce que Jésus a fait pour vous? C'est en réalité ce que le Seigneur nous demande, dire ce que Jésus a fait pour nous. Et puis cette entrevue de Philippe avec l'Éthiopien, elle est facile. C'est extraordinaire. Dieu lui a taillé une tâche toute simple, pour lui. Comme si en réalité, Dieu avait fait tout le travail et qu'il lui demande d'être simplement témoin de sa grâce. L'histoire continue. Et en chemin, ils vont rencontrer de l'eau. Et l'Éthiopien va lui poser la question que Philippe aurait dû lui poser. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En fait, cette question, c'est celle que nous sommes invités à poser à bien des gens. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus et de l'accepter comme ton sauveur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui dresse une barrière, qui barre le chemin et qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui empêche? Et nous sommes là justement pour aider à enlever les barrières qui sont dans le chemin et qui empêchent que certains avancent plus près de Jésus. À cause du monde dans lequel nous vivons, nous avons un esprit déformé par la publicité. Où que vous portiez les regards, il y a des affiches publicitaires. Et la publicité est faite pour vous obliger à faire ce que vous n'auriez pas fait, sinon. Toutes sortes de méthodes sont utilisées. On serait affolé d'ailleurs si on savait tous les trucs qu'il y a derrière la publicité pour nous faire faire ce que nous n'avons pas nécessairement envie de faire. Et nous sommes parfois tentés de penser que l'Évangile c'est aussi la même chose, tordre le bras des gens pour que finalement ils acceptent ce qu'ils auraient dû accepter depuis longtemps. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Le Seigneur ne nous demande pas de faire de la manipulation pour amener des gens à accepter Jésus. Le Seigneur nous propose simplement de leur offrir une invitation. Une invitation. Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher pour connaître Jésus? Y a-t-il quelque chose pour lequel je puisse t'aider et enlever cette barrière qui t'empêche de passer? Adresser aux autres une invitation. Dans le même livre, Conquérant Pacifique, à la même page, je lis ceci qui concerne non pas l'époque de Philippe, mais la nôtre. Et c'est ce qui me touche dans ce passage. Ellen White écrit dans Conquérant Pacifique à la page 96 « Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent vers le ciel des regards angoissés. Avec prière et avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de l'Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attendant seulement l'invitation d'y entrer. » Il nous faut prier pour que le Seigneur nous donne son esprit de façon à ce que nous puissions entendre chaque fois qu'il nous conduit quelque part, peut-être sur un chemin désert, rencontrer quelqu'un, qu'il a prié avec larmes, lui demandant de l'éclairer sur le chemin à parcourir. Il y a dans cette ville des gens qui lisent leur Bible en secret et qui prient en secret avec larmes, demandant à Dieu de connaître sa vérité. Mais vous qui dites que vous ne savez rien ou pas grand-chose, vous qui dites parfois que vous ne savez rien faire, est-ce que vous imaginez que vous en savez infiniment plus qu'eux sur le plan du salut en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêts, s'ils vous le demandent, à dire ce que Jésus a fait pour eux et à leur expliquer la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts, s'ils vous le demandent, à leur offrir cette invitation que le Seigneur nous a adressée à nous-mêmes et à laquelle nous avons répondu? Et puis dans notre histoire, les événements qui suivent sont curieux. Philippe va baptiser l'eunuque. Et à peine il est sorti de l'eau, Philippe a disparu. Le texte nous dit que l'Esprit de Dieu le transporta et tout d'un coup, il se trouve à Azote, dans une autre ville. Je ne sais pas, mais j'aurais été l'eunuque, j'aurais été découragé. Je me dis, mais au moment extraordinaire de mon baptême, voilà que je me retrouve tout seul. Ce n'est pas ce que le texte dit. Vous avez remarqué ? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39 dit, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route, Philippe se trouva dans Azote. » Cet homme est joyeux, il continue son chemin. Mais vous allez dire, mais enfin, Il y a encore un travail énorme à faire avec cet homme. Il vient d'être baptisé. Il ne connaît pas tout. Mais il n'est marqué nulle part que c'est à nous de faire tout le travail. Vous savez, ces gens que Dieu place sur notre chemin pour que nous partagions l'Évangile avec eux, ils ne sont pas notre propriété. Ils appartiennent au Seigneur comme nous aussi. Et le Seigneur demande à certains d'arroser, à d'autres de semer, à d'autres de récolter. Ce n'était pas à Philippe à continuer la tâche. Et nous avons peut-être le sentiment qu'il nous revient la tâche de faire tout le travail. Dieu a bien d'autres moyens pour accomplir sa mission envers ceux qu'il appelle. Et remarquez, cet eunuque a bien compris. Il a bien compris parce qu'il continue son chemin, il est seul et il est joyeux parce qu'en réalité, il n'est pas seul, il vient de rencontrer Jésus. Ce qui arrive à Philippe, ce qui arrive à l'instrument, peu importe. Maintenant, il n'est plus seul, il a Jésus avec lui. Il le sait, il continue joyeux son chemin. Maintenant, Philippe a une autre tâche de la part du Seigneur, ailleurs. L'instrument disparaît ici, devant l'importance de cette rencontre avec le Christ. Cet homme est assuré qu'il ne continue pas son chemin seul. Il est joyeux parce qu'il a rencontré Jésus. Philippe disparaît. À la fin de l'évangile de Jean, nous rencontrons une situation un petit peu particulière. Vous vous en souvenez, Pierre est avec Jésus et il voit Jean. Et il lui demande, mais qu'est-ce qui va arriver à Jean ? Vous vous souvenez comment Jésus lui répond ? Il lui dit, c'est ma manière de traduire le texte, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Toi, suis-moi. Peu importe ce qui arrive à l'ouvrier, l'instrument que Dieu a choisi n'est pas pour être là devant la scène et prendre la place que Jésus doit obtenir dans nos cœurs. Philippe disparaît, il est enlevé pour laisser toute la place à Jésus dans la vie de cet homme qui rentre à la maison. Que va-t-il arriver de celui-ci, de celle-là ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Toi, suis-moi. Et c'est ce que nous sommes invités à faire finalement, à le suivre, à accomplir la tâche qu'il nous accorde d'accomplir de sa part, guidé par les anges. Cette histoire, ce n'est pas à notre sujet, c'est au sujet du Seigneur Jésus. Et nous ne sommes que les ouvriers, les outils que le Seigneur veut bien employer pour mettre Jésus en évidence aux yeux de ceux qui nous entourent. Et Philippe disparaît. Il y a dans cette histoire encore un élément que je voudrais souligner. Le Seigneur ne demande jamais une tâche à ses serviteurs sans leur garantir une récompense. Ce n'est pas pour la récompense que l'on sert Dieu, c'est évident. En fait, cette récompense, il nous l'a déjà donnée en Jésus-Christ, qui nous sauve. C'est pour ça que nous voulons servir. Mais le Seigneur veut mettre une cerise sur le gâteau. Une cerise sur le gâteau, elle sera peut-être différente pour les uns et pour les autres, ici-bas. C'est la raison pour laquelle, s'il faut être prêt à toutes les surprises lorsque Dieu veut nous employer à son service, il faut aussi être prêt à toutes les surprises lorsque Dieu nous donne sa récompense. La récompense sera une surprise. Et vous avez remarqué à quel point un cadeau est plus beau quand c'est une surprise que quand on sait ce qui va nous être offert. Il est possible que certains d'entre nous, avec le temps, aient développé cette mentalité des ouvriers de la première heure, vous savez, dans la parabole que Jésus raconte. Peut-être que certains d'entre nous sont tentés de dire, « Seigneur, nous avons travaillé fort depuis le matin. » Certains d'entre nous sont peut-être tentés de parler comme les disciples qui disaient à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Cependant, la récompense surprise, c'est toujours la plus belle. Écoutez ceci. Toujours dans le livre « Conquérant Pacifique », Ellen White écrit, « Cette tâche requiert des efforts laborieux, mais elle réserve une riche récompense. Ceux qui s'y engagent avec sincérité verront des âmes gagnées au Seigneur, car l'influence qui accompagne l'exécution de cette mission divine est irrésistible. » Mes amis, le témoignage que vous avez donné à vos enfants, le témoignage que vous avez donné à vos amis et qu'ils n'ont pas écouté, vous semble-t-il, le témoignage que vous avez donné à vos conjoints, le témoignage que vous avez répandu autour de vous, il est inscrit en lettres de feu dans l'esprit de tous ces gens parce qu'il est irrésistible. Nous ne savons juste pas quand ils vont accepter de le recevoir. Mais ce témoignage que vous avez répandu en disant « Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre », ce témoignage est écrit en lettres de feu dans l'esprit de ceux à qui vous avez parlé. Alors la récompense, elle est la surprise que le Seigneur nous prépare. Il y a un texte dans le livre des psaumes, dans le psaume 126, où cette récompense nous est annoncée. Psaume 126, au verset 5, il est dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Le Seigneur nous donnera la grâce de voir les résultats du témoignage qu'il nous a confié, parce que des gens seront sauvés. Et puis, il y a bien entendu cette récompense que le Seigneur nous donne, que le Seigneur donne à tous ceux qui se seront consacrés à lui pour être ouvriers avec lui, lorsqu'ils auront la joie d'entendre leur maître leur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup ».